Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30 et ce journal vous est présenté par Marina Kertamon.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour dans l'actualité ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée zéro discrimination, zoom sur la situation des travailleurs du sexe avec le coordinateur d'Espace P. Lola Fontaine nous fera un récapitulatif des changements en Belgique en ce 1er mars. Le suicide est la première cause de mortalité chez les 15-44 ans. Manon Sarlin nous en dit plus sur ce phénomène. Et enfin, Valentine Pasque reçoit l'architecte Odile Deck en plateau pour discuter féminisme et architecture. Aujourd'hui, c'est la journée zéro discrimination de l'ONU-SIDA. Cette année, l'organisation internationale met l'accent sur l'importance de la décriminalisation dans la lutte contre le SIDA, c'est-à-dire la suppression de lois qui nuisent au dépistage et aux soins des populations. Lola, toi, tu t'es intéressée à la situation des travailleurs du sexe en Belgique vis-à-vis de l'accès au dépistage et aux soins. Et ils rencontrent encore des obstacles.
Oui, car les travailleurs du sexe voient encore leur statut marginalisé. On écoute à ce propos Quentin Deltour, coordinateur de l'Espace P, une ASBL qui offre des services sociaux et médicaux aux travailleurs du sexe.
L'accès aux soins, le dépistage, trouvent leurs freins non pas dans le travail du sexe en lui-même, mais dans tout ce qu'il y a d'illégal autour de l'exercice du travail du sexe et dans l'exploitation du travail du sexe qui constitue un frein extérieur à un exercice du dépistage du travail social et du travail médical.
En mars 2022, la Belgique a pourtant réformé le code pénal sexuel, décriminalisant le travail du sexe et donc mettant fin à son illégalité. Les associations et les travailleurs attendent son application effective avec impatience pour pouvoir fournir une accessibilité complète au dépistage et aux soins des travailleurs du sexe, ou TDS, car dans les faits, les pratiques restent encore inchangées.
Parfois, à l'heure actuelle, dans les bars, il y a encore une réticence de la part des patrons ou des patronnes qui engagent des travailleurs du sexe à laisser rentrer des travailleurs sociaux ou des travailleurs médicaux parce que simple fait de l'illégalité de leur activité.
Pour Quentin Deltour, les progrès sont aussi à espérer dans les mentalités.
Il reste assez évident pour bon nombre de personnes que prostitution égale prise de risque, donc ça ferait partie des risques du métier. Il y a au contraire une très grande conscience parmi les travailleurs du sexe de la nécessité de se protéger.
Le coordinateur pointe notamment les vrais dangers qui guettent les travailleurs du sexe et qui les rend vulnérables à une contamination au VIH.
C'est d'une part le client qui, lui, et parfois, dans certaines circonstances, faire monter les enchères pour obtenir des passes sans préservatif. Et d'autre part, le contexte social et économique qui fait que cette pression du client, on finit parfois par y céder parce qu'on a besoin d'argent.
À l'échelle mondiale, selon les chiffres ONU-SIDA, il faut savoir qu'en 2019, les travailleuses du sexe avaient un risque 30 fois plus élevé de contracter le VIH que la population féminine en général.
Ça ne vous aura pas échappé, nous sommes le 1er mars et comme chaque début du mois, de nouvelles mesures entrent en vigueur. Lola, on va faire un tour d'horizon de quelques changements importants. Alors d'abord, si je veux passer mon permis à partir d'aujourd'hui, je vais devoir débourser plus que prévu.
Et oui, en Wallonie, les prix vont augmenter. Pour l'examen théorique, on passe de 15 à 16 euros. Même traitement pour le test de perception des risques. Et pour l'épreuve pratique, le tarif s'élève à 40 euros au lieu de 36. Ces augmentations concernent les permis voitures, motos et véhicules agricoles.
Et si mon entreprise, par exemple, me fournit des éco-chèques, comment est-ce que je vais pouvoir les utiliser concrètement?
Alors Marina, tu sais que les éco-chèques servent à acheter des produits et des services à caractère écologique. Avant, tu pouvais acheter de petits appareils électriques d'occasion, mais maintenant, si tu veux acheter une machine à laver d'occasion, ce sera possible. Ce sera en fait pareil pour tout gros appareil électroménager d'occasion, sauf les appareils hybrides. Tous les produits avec le label FSC ou PEFC pourront aussi être achetés avec des éco-chèques. Et enfin, si tu te déplaces à vélo et que tu souhaites le garer dans un parking dédié, tu pourras également payer une place de stationnement ou un abonnement avec les éco-chèques.
Pour ceux qui travaillent dans des établissements pour chiens et chats, de nouvelles garanties pour le bien-être animal vont être imposées en Wallonie.
Et oui, les animaux ne pourront plus être détenus seuls en permanence. Pour les élevages, le nombre de portées par femelle est réduit et les éleveurs ne pourront élever que deux races différentes. En général, les établissements devront consacrer plus de temps aux soins et à la socialisation des animaux. Et si tu souhaites adopter ou acheter un chien ou un chat, les établissements devront te donner des informations sur les besoins et les spécificités de l'animal et te poseront des questions avant de te laisser l'adopter.
J'étais un peu embêtée ce matin, j'ai voulu appeler ma grand-mère sur WhatsApp, mais j'ai pas pu accéder à l'application.
Et oui, l'application ne sera plus accessible sur près de 35 types de smartphones, mais pas d'inquiétude, c'est très progressif. Ça ne concerne que les plus anciens. Pour Android, il s'agit des téléphones qui ont une version antérieure ou égale à la version 4.1 et l'iOS 12 pour les iPhones.
Merci pour ces précisions, Lola.
Il est 9h35 et vous écoutez toujours 48FM.
On passe à un sujet beaucoup moins drôle. La Belgique est l'un des pays avec le taux de suicide le plus élevé au monde et les jeunes sont de plus en plus touchés. C'est d'ailleurs la première cause de décès chez les 15-44 ans devant les cancers et les accidents de la route. L'association Un Pass dans l'Impasse lutte contre le suicide partout en Wallonie, Manon.
Et oui Marina, elle possède 8 antennes dans toute la région, dont un centre de prévention suicide à Liège. J'ai pu m'entretenir avec la chargée de communication de l'association Alison Verlat. Malheureusement, les demandes de consultation pour idéalisation suicidaire ne font qu'augmenter chez eux.
Aujourd'hui, de nos consultations, il faut savoir qu'on fait plus de 40% de consultations ici sur ces deux dernières années. On voit que la population a été fortement impactée par la pandémie et essentiellement les jeunes, puisque aujourd'hui, 33% de nos patients sont des jeunes. Donc quand on dit jeunes, c'est des enfants de 10 ans jusqu'aux jeunes adultes allant jusqu'à 24 ans.
Je vous propose d'écouter les raisons qui causent les idées suicidaires chez les jeunes.
Le suicide, il est multifactoriel. Mais on remarque toutefois que dans ces différents facteurs, il y a souvent les mêmes facteurs qui peuvent revenir, style le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement. On a aussi tout ce qui est soucis de relations, difficultés avec les autres, à aller vers les autres. Et d'ailleurs, durant la pandémie, on a beaucoup de jeunes qui sont revenus vers nous car beaucoup ont eu énormément de difficultés à vivre. Cet isolement lié aux différents confinements.
Si vous avez des idées suicidaires, qu'importe votre âge, votre statut, tout le monde un jour peut être concerné. Alors n'hésitez pas à contacter l'association au 08 17 77 15 0. Un Pass dans l'Impasse vous fixera un rendez-vous avec l'un de leurs psychologues, tous spécialisés sur la thématique du suicide.
Merci Manon pour ce sujet. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui en plateau l'architecte et urbaniste française Odile Deck, gagnante du prix Femme Architecte en 2013. Son cabinet est établi depuis le début des années 80 et a été primé à de nombreuses reprises. En plus de ses activités, elle a également fondé à Lyon sa propre école d'architecture. Je passe tout de suite le micro à Valentine pour parler féminisme et architecture avec notre invitée.
Une partie de votre conférence hier à Liège était consacrée aux femmes et la discipline architecturale. Mais concrètement, Madame Deck, en 2023, c'est quoi être une femme architecte ?
C'est exactement, c'est être un architecte d'abord. C'est-à-dire, c'est pas différent, sauf que quand on regarde les statistiques et quand on regarde ce qui se passe, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui sont des étudiantes aujourd'hui dans toutes les écoles d'architecture, c'est plus de 60%. Dans la profession, il y en a moins de 30%. Et en fait, l'accès, une fois qu'elles sont architectes et qu'elles sont inscrites à l'ordre et qu'elles sont à la tête de leurs agences, on se rend compte que traditionnellement, les grands projets leur échappent. La visibilité est très faible. Ce n'est pas elles qui sont publiées, ce n'est pas leurs projets qui sont publiés dans les magazines. Ce n'est pas elles qui ont la plus grande représentation dans les systèmes d'organisation de la profession. Et ce sont aussi... C'est un manque de visibilité terrible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, on ne regarde pas. Et dans les écoles d'architecture, on en parlait aussi hier, si vous regardez la parité dans l'enseignement, au niveau des studios ou des ateliers qui sont des endroits où les étudiants font des projets, en fait, la majorité des studios sont tenus par des hommes. Ce qui fait que la représentation de la vision d'une femme vis-à-vis des étudiantes n'est pas là. Et c'est vraiment un problème. C'est toujours un problème. Et ce n'est pas normal.
Et que pensez-vous des stéréotypes qui restent au niveau de la profession ? Donc, pour vous, quel stéréotype domine l'imaginaire collectif ?
Le fait que c'est pas qu'elles n'ont pas forcément le courage, parce que c'est ce que j'entends régulièrement, ils pensent que les femmes n'ont pas assez de courage, alors qu'en fait, la plupart du temps, les femmes ont plus de courage que les hommes, on va le dire, sérieusement. Et en plus de ça, elles sont sur un chantier, elles ne seraient pas aussi efficaces, alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Les plus grands architectes à Paris ont tous des femmes pour aller sur les chantiers parce qu'elles sont beaucoup plus beaucoup plus précise et beaucoup plus efficace sur les chantiers vis-à-vis des entrepreneurs. Donc, je pense que tout ça, les stéréotypes, c'est pas fait pour les femmes, c'est pas un métier de féminin. Donc, n'y allez pas. Alors qu'en fait, il y a une grosse, grosse demande et ça, c'est vraiment un problème. Donc, je pense que les écoles d'architecture doivent s'y atteler sérieusement, que la visibilité, les magazines, la façon dont on représente l'architecture doit vraiment vérifier ça et permettre aux femmes d'être plus visibles, plus présentes.
Est-ce que justement, vous avez déjà une très très longue carrière, est-ce que vous avez l'impression que depuis le début de celle-ci, il y a quand même eu une avancée ?
Un petit changement, on va dire. Ça fait effectivement une très longue carrière et en termes de pourcentage, en termes de réaction en face de moi, oui, maintenant, parce que moi je suis installée, je suis là et on me connaît. Mais je sais que pour les plus jeunes, c'est le même problème que ce que je rencontrais quand j'ai démarré. Donc, ça n'a pas vraiment changé dans ce sens-là. Même si aujourd'hui, quand je parle à des confrères masculins, ils me disent toujours « Mais si, Odile, arrête de parler de ça, ça a changé. Regarde la quantité d'étudiants qu'il y a dans les écoles. » Je dis « Oui, mais qu'est-ce qui se passe après ? » Rien.
Mais écoutez, malheureusement, c'est un bilan un petit peu triste. Oui. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présente sur ce plateau aujourd'hui.
Merci, je vous remercie.
Merci Valentine et merci à notre invitée d'avoir été présente avec nous. Quant à nous, chères auditrices et auditeurs, il est déjà temps de nous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Belle journée à tous sur 48 FM.